printemps et début d'été. On a pris beaucoup de décisions, beaucoup de projets de décision mis en consultation. Les grands chantiers stratégiques qui sont à la fois le chômage, le prêt. Donc, il est assez utile de remettre un peu tout ça en perspective pour pouvoir répondre à vos questions. Merci, monsieur. Alors bon, c'est pas exhaustif, mais pour cet exposé préliminaire, j'ai identifié quatre grands chantiers, mais bien sûr il y en a d'autres qui répondront à vos questions. Voilà, ça permet aux collègues d'arriver. Alors, le premier chantier, alors l'aurore n'est pas en fonction de l'ordre hiérarchique des dossiers. C'est tout le chantier de la, j'appellerais la montée vers le très haut débit fixe, avec notamment bien sûr le chantier de la fibre optique. Comme vous le savez, l'ARCEP, à la demande du Parlement, élabore le cadre réglementaire du déploiement de la fibre optique en France. Donc, on a pris une première décision en décembre dernier, puis en janvier, concernant les zones très denses, à peu près 5,5 millions de foyers français situés dans les grandes agglomérations urbaines, pour lesquels la loi LME demande à l'ARCEP particulièrement de définir des conditions de mutualisation qui pouvaient être dans les immeubles, par opposition à la règle de droit commun qui veut que la mutualisation de la fibre optique se fasse hors des habitations. Voilà. Élaborer cette décision et sa mise en œuvre se passe très bien. Il y a pu avoir des interrogations et des débats, vous vous en souvenez, c'est normal, on est en 2009, mais se passe très bien. Les opérateurs ont rendu public dès le mois de février, donc un mois après la publication de la décision, leurs offres de mutualisation. Donc c'est des offres de gros, bien sûr, vis-à-vis de leurs concurrents. Nous les avons regardées, bon, elles ont été ajustées pour mieux tenir compte des règles et des principes qu'on a édictés, mais c'est tout à fait normal, il faut se lancer à l'eau, il fallait se lancer à l'eau. Les opérateurs ont en mai-juin annoncé leur programme de co-investissement dans ces zones très denses, donc en indiquant chacun les projets qu'il avait avec les communes qui étaient concernées. Et donc au total, ce programme concerne, son investissement correspondra sur l'année, en gros de l'été 2009 à l'été 2010, à 800 000 raccordements de fibres supplémentaires par rapport au stock existant au second trimestre 2009. Le stock existant. Alors, si on prend uniquement la fibre optique jusqu'au logement, entre 800 et 900 000, je suis dans les dates que l'on prend, 800 et 900 000 de raccordements, et on s'y ajoute bien sûr la fibre jusqu'au bâtiment versus numérique câble, donc plus d'un million en tout cas de raccordements, de logements à la fibre. C'est le point de départ. Disons au début de l'été 2009, auquel se rajoutera donc les 800 000 FTTH supplémentaires prévus par les opérateurs FTTH et bien sûr. De 2000, oui, vous avez corrigé vous-même, donc quand j'ai dit 2009, c'était 2010. Ça se rajoutera d'ici à 2011, j'ai néanmoins dans ma tête. D'ici à 2011, 800 000 lignes, plus les lignes numériques, donc qui n'a pas évolué, mais en fait, qui seront plusieurs centaines de milliers. Donc ça veut dire que l'on aura normalement à l'été prochain, sensiblement plus que 2 millions de foyers raccordés à la fibre optique dans les zones très denses. Donc en termes de raccordement, on peut dire que le cadre réglementaire, plus les projets des opérateurs, donc à la fois le marché des opérateurs et des régulateurs ont bien travaillé, si je puis dire, ensemble, et que en termes de raccordement, les choses se passent très bien. La France, en termes de raccordement de foyers à la fibre optique, se place en Europe, tout à fait dans le coin de tête, puisque à part la Suède et les Pays-Bas, l'ensemble des autres pays se trouvent à des niveaux de raccordement sensiblement plus bas, puisqu'on est moins en avance que l'Asie, tout à fait en avance pour des raisons technologiques, culturelles et économiques que nous connaissons, mais en tout cas en Europe, nous sommes en avance et nous serons le premier pays avec le cadre réglementaire que l'on prépare pour le reste du territoire. On est mis en consultation et que nous avons transmis à l'autorité de la concurrence avant de le transmettre à la Commission européenne. Nous aurons donc l'ensemble du cadre réglementaire pour la fibre optique qui sera précisé d'ici à la fin de novembre, avant la fin de cette année. On sera le premier pays d'Europe à avoir un cadre réglementaire entièrement précisé pour le déploiement de la fibre optique. Donc voilà pour ce premier sujet. Sachant que, comme je l'avais déjà indiqué, il y a un décalage entre le niveau des déploiements, des raccordements, et le niveau des abonnements. Ça, ce n'est pas le régulateur qui peut avoir une influence sur ce sujet, c'est un problème de comportement de l'offre et de la demande, si je puis dire, à la fois des consommateurs, des internautes que nous sommes, pour passer du haut débit au très haut débit. Qui ont de la fibre optique qui arrive jusqu'à leurs appartements, mais qui ne s'abonnent pas. On est dans un cas-là, puisqu'il n'y a que 10% des foyers raccordés, en gros, qui sont abonnés. Alors, pourquoi? Bon, sur un état d'explication, les deux principales, c'est que la qualité du haut débit, notamment dans les zones urbaines, c'est celle dont on parle, dans une fréquence, et les prix, même si le risque de augmenter un peu prochainement, reste des prix extrêmement bas par rapport aux autres. Et donc les foyers ont une offre à prix bas avec une qualité de service en zone urbaine en tout cas de haut niveau. Et pour l'instant, même si on sent maintenant des frémissements quand même du comportement des consommateurs finaux, il n'y a pas eu encore un véritable déclic pour aller fortement vers le très haut débit fixe. Bon, mais c'est une question, je dirais, de la même chose s'est passée sur le DSL il y a 7-8 ans. Donc il y a un moment où la mayonnaise va prendre et puis le processus va s'accélérer. Ça, c'est du côté des consommateurs. Puis du côté des opérateurs, il y a. Alors chacun attend un petit peu l'autre. Bien sûr, passer du raccordement à l'abonnement, ça signifie à la fois quelques ultimes travaux de finalisation du réseau sur les paliers d'immeubles, par exemple, et puis surtout des dépenses commerciales, campagnes commerciales, donc ça coûte de l'argent, mais ça en rapporte, évidemment, puisque la fréquence s'abonne énormément. Bon, les opérateurs s'attendent un petit peu les uns les autres, et ils nous expliquent qu'ils attendent d'avoir des masses critiques sur un territoire suffisant pour se lancer dans une véritable campagne commerciale. Donc, ceci, j'ai assez plus de questions, je dirais. De mois pour que la croissance forte des raccordements que j'ai décrit se traduise par une croissance forte des abonnements. Donc, s'agissant de la fibre optique avec le cadre réglementaire qu'on va édicter d'ici à la fin de l'automne sur les zones moins denses et que dans lequel, bien sûr, la mutualisation se fait à un niveau plus large que dans les zones très denses, nous disposerons de quelque chose qui permet de sécuriser à la fois les opérateurs, les consommateurs et les collectivités locales. Alors toujours sur la fibre optique, l'action du régulateur est complétée bien sûr par ce qui relève du gouvernement, le plan national très très haut débit, donc qui est un volet, je dirais, à deux dimensions importantes. Faire émerger et anticiper sur les projets d'investissement dans les zones moins denses, et puis pour avoir une sorte de cartographie de ce qui pourrait être les zones ouvertes par les opérateurs de façon concurrentielle, et puis apporter des financements par le biais de l'emprunt d'État. On pourra y revenir. Parallèlement, bien sûr, à ce qui concerne le déploiement de la fibre optique, Nous avons bien sûr tout à fait conscience que dans les territoires où cette fibre optique n'arrivera pas immédiatement, il est nécessaire que nous facilitions et nous précisions les modalités, ce qu'on appelle la montée en débit, donc dans des territoires plus ruraux et moins denses. Nous avons édicté quelques recommandations au mois de février, mettez en public, et nous travaillons avec les opérateurs et les collectivités locales, dans le cadre de plusieurs groupes de travail technique, pour que l'ensemble des règles du jeu et de la boîte à outils soit prêt sur ce sujet d'ici à la fin de l'année. Et France Télécom a rendu public une offre sur cette montée en débit au cours de l'été. Donc ce sujet avance bien. On fera le point sur toutes ces questions avec les collectivités locales lors d'une réunion de ce qui s'appelle le DRACO, donc le groupe d'échange entre l'ARCEP et les opérateurs et les collectivités locales, à la fin du mois de septembre. Alors, le deuxième thème, c'est celui des services mobiles et du très débit mobile. Alors, un mot sur les réseaux 3G. Bon, comme vous le savez, nous avons mis en demeure en décembre dernier Orange et SFR de rattraper le retard qu'ils avaient pris sur les engagements de leur licence. Il y avait un premier rendez-vous fin juin pour SFR qui devait atteindre 84% de couverture. Les contrôles que nous achevons montrent que cet objectif sera sans doute atteint, juste, sera atteint. Bon, nous vérifierons définitivement dans quelques jours. Et un autre rendez-vous est prévu pour la fin de l'année pour Orange et SFR qui doivent atteindre 88% de couverture. Nous sommes vigilants, bien sûr, pour ces licences existantes et nous serons, bien sûr, convenus pour la licence de free que les opérateurs remplissent les engagements de leur licence. Et en s'agissant de free, vous êtes raisonnablement optimiste, je dirais, on n'est pas d'entre nous, Mme Soleil, pour savoir ce qui se passera exactement. Enfin bon, en termes de déploiement du réseau, pour Free a défini la capacité de commande à des équipementiers européens de ce type. J'ai pu réaliser, je pense, donne une certaine fiabilité de ce qu'il pourra déployer. Je crois qu'il semble assez bien avancé sur ces négociations concernant des sites ou des barrages sur réseau. Des sites de TDF, de collectivités locales ou d'autres acteurs qui ont des sites disponibles qui jouera. Donc sur cet aspect technique du réseau, on peut être raisonnablement optimiste. Reste bien sûr les négociations qui mènent pour l'itinérance 2G et l'itinérance 3G, donc qui sont des sujets différents, puisque l'itinérance 2G est un droit qui est inscrit dans sa licence, et donc discussion qu'il a déjà bien avancée avec plusieurs opérateurs. Choisira, je présume, l'opérateur qui lui proposera, puisque plusieurs opérateurs lui ont fait des propositions les plus avantageuses pour eux, pour l'esprit. Sur les finances 3G, je sens plus complexe, s'il n'y a pas de droit inscrit dans la licence. Il s'agit de convaincre. Pour Free de convaincre au moins un opérateur qui a plus d'avantages que d'inconvénients à signer une convention, enfin un accord, un contrat pour itinérance 3G. Plus d'avantages que d'inconvénients, ben, l'inconvénient serait un concurrent, un avantage c'est le loyer que paiera Free à l'opérateur, au premier opérateur qui acceptera l'itinérance 3G. C'est un jeu de rôle, de négociation classique sur ce genre de sujet et comme je l'ai dit hier lors de l'audition par le Conseil national, je fais raisonnablement confiance aux opérateurs et au marché pour qu'à un moment donné, il y a un opérateur qui comprenne qu'il a plus d'intérêt qu'inconvénient à signer un point d'itinérance sur son réseau pour Free. S'il y a un problème, nous éviterons. Voilà pour la 3G. Pour les réseaux 4G, donc le très haut débit mobile, vous le savez, le travail sur ce chantier est très important, très stratégique, très important depuis le début de l'année. Nous avons mis en consultation une maquette, en quelque sorte, enfin, ouverte sur toutes les questions qui devront être tranchées d'ici la fin de l'année. Sur les paramétrages, les caractéristiques, les critères et les paramétrages de ces appels à candidature sur les hautes fréquences de 6 GHz et les basses fréquences 800 GHz. Donc, en construction publique, vous avez sans doute pu regarder les documents que nous avons mis en ligne pour avoir les réactions des opérateurs, des équipementiers, en fait, de tous ceux qui avaient des collectivités locales, bien sûr, leurs associations qui avaient des choses à nous dire. Les caractéristiques, bien sûr, de ces deux appels à candidature, dont le calendrier a été, nous l'avons bien sûr bien arrêté avec le gouvernement, le cadre de ces appels à candidature sera rendu public en décembre. Sur les deux spectres de fréquences en même temps, donc comme ça, l'ensemble du cadre sera connu et sa cohérence sera bien visible. Ça sera publié courant décembre. L'attribution des fréquences 2-6 interviendra en premier. Il devra intervenir d'ici à la fin, d'ici à la fin février, fin mars. Fin mars, je crois. Il y aura un petit tuilage et les résultats des fréquences 2-6 seront connus avant que les opérateurs, avant la limite de remise des dossiers des opérateurs pour la candidature aux fréquences 800, pour que les opérateurs soient informés pour leur choix stratégique de ce qui sera passé sur le 2-6 avant d'être candidat ou de ne pas être candidat seul ou en commun. Aux fréquences 800, et ces fréquences 800, donc le dividende numérique proprement dit, sera attribué au cours de l'été, avant la fin juillet 2020. Donc, l'ensemble de ces fréquences de quatrième génération de téléphonie très haut débit mobile seront attribuées entre le printemps et l'été. Seront attribuées. Avant les vacances du mois d'août 2011.
Prends-moi les chaises, si tu veux pas.
Alors, ces attributions de fréquences de quatrième génération mobile posent des problèmes multiples. Ce sont des sujets complexes, des questions techniques que nous sommes posées avec les équipementiers, avec les opérateurs, de la maturité des technologies. Nous avons estimé que l'année 2011 était une année où on pouvait estimer que les technologies, à la fois du côté de l'offre et de la demande, des émetteurs, des récepteurs, des terminaux, du comportement des consommateurs, étaient à une année de maturité suffisante pour lancer ces appels à candidature, et qu'il ne fallait pas y lancer ni trop tôt ni trop tard. Les autres questions qui se posent, ce sont celles de la façon de mettre en œuvre l'objectif prioritaire d'aménagement du territoire que la loi de lutte contre la fracture numérique de décembre 2009 a inscrit comme objectif prioritaire de l'attribution du dividende numérique, donc de la vente 800. Comment traduire cette phrase, l'objectif prioritaire d'aménagement du territoire, dans des critères précis sur le plan technique et juridique? Plusieurs, il n'y a pas une seule réponse à cette phrase législative éclairée par des débats parlementaires comme très, très copieux, très précis. Dans le document qu'on a mis en consultation publique, si vous l'avez regardé, on vous en a remis un résumé dans le dossier de presse. Ce que nous mettons sur la table un peu pour cette consultation, c'est de dire qu'il faut que la couverture globale, l'objectif global de couverture du territoire soit au minimum ceux des deux réseaux précédents, 2G et 3G. Donc là, entre 80, au minimum à 98, et éventuellement, si on veut un objectif plus ambitieux, on peut aller au-delà de 99%. Donc voilà un peu le paramétrage sur l'objectif global. Mais en plus, c'est ce qui nous différencierait des réseaux 2G, 3G. Nous proposons qu'il y ait des objectifs départementaux, donc infranationaux, qui pourrait tourner autour de 90% pour chaque département. Donc chaque département devrait avoir autour de, c'est ce que nous mettons sur la table, même si je n'ai pas parlé effectivement, au moins 90% de sa population couverte, ce qui permettrait d'éviter, comme ça a été le cas pour la réseau 2G et 3G, que pendant de longues périodes, certains départements ruraux, notamment, aient des taux de couverture très bas. Troisième élément, nous proposons que certaines parties du territoire peu denses, représentant les deux tiers en gros de la surface du territoire et plus de 25 000 communes, de fixer dans l'appel à candidature une obligation pour l'opérateur qui aurait une licence de couvrir dans un certain délai, relativement rapide, de 5 ans, pour être autour de 5 ans, une partie substantielle d'atteindre pour ces territoires peu denses, prioritaires au sens de la loi, un taux de couverture significatif. Donc voilà un petit peu les outils que l'on propose de retenir pour mettre en œuvre, je résume, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais je me limite à l'essentiel, cet objectif législatif prévu par le législateur. Alors il y a d'autres questions qui portent sur chacune des deux bandes de 6 et 800, mais surtout sur la bande 800, qui est comment découpe-t-on le spectre des fréquences disponibles, donc les 30 MHz, les 2 x 30, sur la bande 800 notamment, comment les découpe-t-on en lots. Pour résumer, là aussi, Joël ou Nicolas, ou Pierre pour compléter. Moi-même, bien sûr, si vous avez des questions plus précises à nous poser. Nos deux idées directrices sont les suivantes. C'est permettre, ne pas rendre obligatoire, mais rendre possible l'attribution de 4 licences, 4 opérateurs téléphonie mobile 3G, 3 plus 1 qui est en train de l'être, et permettre 4 licences de téléphonie mobile, ça ne veut pas dire forcément obligatoirement les 4 actuels, mais enfin en tout cas qu'il puisse y en avoir 4 techniquement. Et deuxièmement, de prévoir par ailleurs un lot plus gros que les autres, si je puis dire, qui pourrait être attribué soit à un opérateur unique, soit à un consortium d'opérateurs, et qui permettrait plus facilement d'atteindre cet objectif de couverture rapide et efficace du territoire. Des zones peu denses. Voilà un petit peu les deux éléments principaux de structuration que nous prévoyons de mettre dans les règles d'appel à candidature. Alors après, il y a une troisième série de questions qui sont des aspects plus techniques. Comment l'organise la procédure? Est-ce que c'est des prix fixes? Est-ce que c'est des enchères? C'est des questions sur lesquelles on pourra revenir. Et connexe à celle-là, c'est les niveaux de prix. Si c'est des enchères, le prix minimum, le prix de réserve, et si c'est un prix fixe, le prix d'achat, et puis les redevances annuelles, et c'est bien sûr c'est des questions qui sont là, qui relèvent, nous avons pour avoir l'opinion, des avis, mais qui relèvent in fine bien sûr du gouvernement de fixer ces prix. Voilà en quelques mots les caractéristiques de ce dossier, donc très, très important et très stratégique pour permettre d'apporter avant que la fibre optique, puisque c'est l'attribution de fréquence au rendez-vous 2011, les réseaux se déploieront effectivement 13-14 commenceront à fonctionner dans certaines zones dans ces eaux-là. Donc ils seront disponibles, surtout si l'on met des objectifs ambitieux, le calendrier pour les zones moins denses, c'est ce très haut débit mobile sera disponible dans beaucoup de territoires avant l'arrivée du très haut débit fixe. Et donc c'est un élément tout à fait important
de lutte contre la fracture numérique. Troisième sujet que je souhaitais aborder rapidement, on y reviendra aussi, c'est un grand chantier que j'avais annoncé lors des vœux de l'ARCEP à la Sorbonne en janvier dernier, comme étant un chantier sur lequel nous avions beaucoup travaillé en 2010, c'est celui des relations, de l'amélioration des relations entre les opérateurs et les consommateurs. Alors nous rendrons public d'ici à la fin novembre un ensemble de propositions d'action pour ceux qui relèvent de nous, que l'on peut mener directement, ou de recommandations pour ceux qui relèvent, ce qui implique soit des changements de texte par législateur, soit des actions relevant d'autres acteurs publics, ou des opérateurs eux-mêmes, des acteurs privés. Donc ici à la fin novembre, on a souhaité traiter ce sujet de façon globale plutôt que de le saucissonner. Comme c'était un peu la tendance à la fois du régulateur, du gouvernement et du Parlement jusqu'à maintenant, pour avoir une vue d'ensemble de ces questions des relations entre les opérateurs et les consommateurs. Globalement, je laisse de côté les aspects tarifaires sur lesquels on pourra revenir, sur le niveau des tarifs. On sait que s'agissant des services fixes, on a des prix très bas, et on s'en félicite en France, et que sur les services mobiles, on a des prix plutôt supérieurs à la moyenne, d'où la nécessité de plus de concurrence, et ce qui a légitimé l'attribution de la technologie 3G. Mais sur les aspects, je dirais, non strictement tarifaires, et de façon plus générale, des types de relations factuelles ou contractuelles entre les opérateurs et les consommateurs, globalement, on ne peut pas estimer que la situation soit vraiment bonne, pour être euphémistique, je dirais. Nous concentrerons, alors nous l'avons déjà relevé dans le rapport d'application que nous avons demandé au Parlement sur la loi Châtel, qu'on a remis au Parlement au cours de l'été, que cette loi n'était qu'imparfaitement, disons, appliquée, avec un certain nombre de premières recommandations que nous avons faites, mais nous les reprendrons en élargissant le sujet dans ces recommandations du mois de novembre, qui seront globales, qui porteront d'ailleurs aussi sur le secteur postal. Trois choses que je voudrais relever, trois problèmes, trois insatisfactions et trois objectifs que nous fixerons dans nos propositions de l'automne. Premièrement, plus de transparence. Alors, la transparence, c'est pas simplement un mot comme ça qu'on prononce pour se faire plaisir. C'est que ce soit que le consommateur, que les offres que les opérateurs proposent aux consommateurs soient compréhensibles, ce qui fréquemment n'est pas le cas actuellement, qu'elles soient compréhensibles quand elles sont présentées dans des publicités, par exemple, déjà. Que la réalité de l'offre par rapport à ce qu'on voit quand on regarde la télévision ou le cinéma, ce soit la même chose, par rapport à ce qui est dans le contrat in fine que l'abonné va signer avec son opérateur. Qu'elle soit compréhensible, qu'elle soit suffisamment précise pour que ce qui est annoncé que le consommateur puisse vérifier que c'est réalisé. C'est quoi une offre illimitée, pour prendre un exemple, que ce soit dans téléphonie mobile ou sur Internet, les services Internet. Donc la question de la transparence et sur ce sujet, le nouveau paquet télécom, enfin, en voie de transposition, les nouvelles directives renforcent le rôle des autorités de régulation pour faire respecter ce principe de transparence. Deuxième objectif, c'est améliorer la fluidité du marché. Et ça, c'est un sujet vraiment névralgique. Il y a une très nette insuffisance de fluidité du marché. Il y a une liste plus grosse, la durée des abonnements, la liaison entre le service et le terminal, enfin, des sujets que l'on connaît, mais sur lesquels il faut maintenant, nous ferons des propositions, gouvernement et le Parlement décideront s'ils veulent les suivre ou pas sur toutes ces questions. C'était déjà un des objectifs de la loi Châtel, mais peut-être que la loi Châtel n'avait pas été utilisée de façon suffisamment précise. Il y a aussi des textes d'application, certains concepts de la loi Châtel qui impliquaient des applications qui n'ont pas été prises, etc. etc. Enfin, je vous renvoie au rapport que nous avons fait là-dessus, mais il y a tout un travail pour améliorer la fluidité du marché pour permettre aux consommateurs de changer d'opérateur et donc de faire effectivement jouer la concurrence. C'est pas simplement un principe qu'on écrit dans des codes ou dans des paquets, mais ça doit être une réalité pour le consommateur finalement. Et puis, troisième sujet, c'est que nous avons rendu public avant l'été un certain nombre de résultats d'enquête que nous avons menés. Le manque de rigueur dans l'utilisation des services à valeur ajoutée et des numéros surtaxés. Il y a vraiment un travail de remise en ordre très important à faire, puis y compris et notamment dans l'usage que font de nombreux services publics de ces numéros surtaxés. Usage qui est à la limite de la légalité, au-delà même du fait qu'ils sont déontologiquement assez inadmissibles. Dernier point sur lequel je souhaitais dire un mot dans cet exposé liminaire, c'est le sujet de la neutralité des réseaux d'Internet. C'est une chose que nous travaillons depuis l'automne, en colloque en avril, des orientations qu'on a reçues en mai, beaucoup de retours, une cinquantaine de retours après cette consultation publique. Le gouvernement, par ailleurs, a un rapport au Parlement début août, et nous sommes en train de faire la synthèse de ces consultations et nous rendrons public d'ici à la fin du mois. Alors ce ne sera plus des orientations mais des propositions, soit des choses qui relèvent de l'ARCEP directement et que nous pouvons d'ores et déjà mettre en œuvre, soit des sujets qui relèvent de nous mais qui ne pourraient être mis en œuvre aussi que soit après la transposition de la directive qui renforce le rôle des autorégulations eux-mêmes, soit éventuellement par des compléments que pourrait apporter le Parlement, plusieurs parlementaires ont fait des propositions, la majorité de l'opposition fait des propositions en ce sens, soit des actions qui relèvent plus d'autres acteurs publics, nous a semblé utile, puisqu'elles avaient été identifiées dans ce débat, d'exposer aussi dans les propositions que nous ferons. En résumé, quelle est notre ligne directrice sur ce sujet de la neutralité et des réseaux et d'Internet? C'est de sortir d'une certaine hypocrisie sur ce sujet. Hypocrisie soit d'un certain monde de l'Internet qui continue peut-être à réfléchir à ce sujet. Parlant peut-être d'un monde à supposer qu'il ait existé mais qui n'existe plus, qui est celui d'un petit réseau, d'un petit nombre de gens communiquant à des fins d'intérêt général et sans aucun but lucratif, qui était effectivement l'origine de l'Internet et qui, pour lequel s'appliquaient des principes qui sont tout à fait respectables. Mais qui doivent être actualisés par le fait qu'aujourd'hui l'Internet c'est un secteur d'activité économique considérable. Les acteurs de l'Internet, ce sont des dizaines de milliards d'euros ou de dollars. Il y a des règles économiques qui s'appliquent et il faut sortir de la première hypocrisie qui serait de continuer à raisonner comme si c'était quelque chose qui est le modèle d'origine, mais qui doit forcément évoluer, sauf à disparaître. Et puis la deuxième hypocrisie qu'il faut sortir, c'est celle plutôt du monde des acteurs économiques, qui est de dire tout va bien, ne vous occupez pas de ce sujet. C'était le discours d'ailleurs, sans monter à Mathusalem, industriel au début du 19e siècle, face à l'État. Tout va bien, les blocs, je ne occupais pas des mines, je ne occupais pas des chemins de fer, je ne occupais pas de... Tout va bien, laissez-nous faire nos affaires. Enfin, il y a un moment donné où il y a des sujets qui, par leur caractère systémique, stratégique et d'intérêt collectif, justifie et nécessite même que la puissance publique s'y intéresse. Parce que si un jour l'Internet disjoncte, eh bien c'est l'ensemble de la société, notre économie, qui disjoncteront. Donc il y a des sujets qui, par l'importance qu'ils prennent dans l'organisation de l'économie de la société, nécessitent une forme d'intervention publique. Alors cette forme peut être plus ou moins forte et prendre des manifestations variées, mais il est normal que la puissance publique s'intéresse à ces questions et se dote d'outils nécessaires pour agir si c'est nécessaire. Et donc nous voulons sortir de cette double hypocrisie en essayant de tenir une ligne raisonnable, médiane, qui à la fois respecte le plus possible un certain nombre de principes d'Internet qui font sa spécificité. Ça n'est pas, je dirais, qu'un bien marchand, c'est une partie d'Internet, c'est marchand, mais aussi une dimension d'intérêt général, d'intérêt collectif, de réseau ayant un but non lucratif pour une partie de son activité, avec donc la nécessité de respecter le plus possible ce principe de neutralité, et puis parallèlement de trouver un modèle économique moderne qui permette à l'Internet de se développer, au réseau de se déployer, et à des marchés amont entre opérateurs de contenu et de réseau et aval entre opérateurs et consommateurs qui soient des réseaux transparents et non discriminatoires ou de goût. Voilà un petit peu la ligne, le résumé de l'optique, de l'objectif et de la ligne que nous sommes fixés et que le résultat de la consultation n'a pas démenti. Elle a été les acteurs, d'ailleurs c'est très intéressant de voir que les acteurs qui avaient au départ des positions très idéologiques dans un sens ou dans un autre, des préjugés sur ces sujets, qui acceptaient à peine que le débat soit ouvert, sont rentrés dedans, et ça c'est très bien de leur part, et ce débat avançant, les réactions que nous avons eues étaient rarement des réactions, ils pouvaient, j'en étais pour ou contre sur une proposition, mais c'était toujours constructif et généralement pour nous dire c'est bien, vous faites avancer le débat et voilà ce qu'on propose, nous internautes, nous opérateurs de télécom, nous fournisseurs de contenu de service, pour que le sujet avance et puisse aboutir. Donc nous serons amenés à faire des propositions, comme je le disais tout à l'heure, à la fois pour clarifier ces marchés amont de gros entre opérateurs de télécom et fournisseurs de services et de contenu, d'abord mieux les connaître, parce qu'ils sont très opaques et très peu connus. Avant de savoir ce qu'il faut faire, il faut déjà faire un bon diagnostic. Nous avons besoin de recueillir de l'information, nous avons le pouvoir de le faire dans nos compétences. Et puis, quand nous aurons bien compris ces marchés de gros amont, de voir s'ils fonctionnent normalement, à ce moment-là, s'ils fonctionnent normalement, il n'y a rien de particulier à faire. Et s'il y a des anomalies dans leur fonctionnement, manque de concurrence, discrimination, manque de transparence malgré les efforts que nous ferons pour être plus transparents, eh bien, à ce moment-là, nous aviserons pour voir s'il y a lieu dans les limites et sur les compétences que nous avons de des actions plus impératives. Et puis du côté des marchés de détail, là encore, les deux objectifs que nous viserons, c'est plus de transparence dans les offres, mais ça reprend le thème plus général, la transparence des offres que j'évoquais dans le sujet sur le consommateur. Il y a un chantier spécifique à l'Internet que nous demande d'ailleurs de traiter le nouveau paquet télécom. Seront chargés de définir ce qu'est l'accès à Internet normal, je dirais, et puis de s'assurer que les mécanismes de gestion de trafic qui sont nécessaires pour que l'Internet fonctionne se fassent en respectant un certain nombre de principes, et notamment le principe de non-discrimination. Voilà ce que je voulais dire à titre introductif. J'ai déjà été trop long, et donc je m'arrête là. Je laisse éventuellement Joël Nicolas compléter et puissions répondre à vos questions, qui je pense sont nombreuses.